Cette semaine dans l'Olivret, j'ai la joie d'accueillir Vincent Chalet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paul Valéry de Montpellier.
Oui, tout à fait.
En début d'année, vous avez donné une conférence qui m'a interpellée avec, je crois que c'est la Société d'Histoire Moderne.
Alors c'est maintenant la Société d'Histoire du Gard.
Et moi, le titre m'a fait tilt parce qu'il était question du château d'Éguez qui a été pris par les Tuchins en 1382. Et alors moi, ce château d'Éguez m'a toujours intriguée parce qu'il ne reste que des ruines, mais il est beau. Il est en Ardèche, un endroit où l'Ardèche finalement finit par faire, je ne sais plus comment on dit ça, les gorges.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis il a un site qui est un site particulièrement spectaculaire, hein, parce qu'effectivement, il est défendu de trois côtés tout simplement par des falaises, hein, qui sont des falaises naturelles, et il est fortifié simplement du côté du village, parce qu'il bénéficie de fortifications naturelles. Alors ce qui reste aujourd'hui essentiellement, ce sont des tours, hein, c'est-à-dire que l'ensemble finalement du château a quasiment disparu ou est à l'état de ruine, et ce qu'on observe sur le site, ce sont vraiment encore ces tours qui s'élèvent et qui sont quand même assez bien conservées.
Et alors, il a été envahi, finalement, même s'il était protégé par des falaises, il y a des agresseurs qui ont réussi à en prendre possession.
Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître relativement intriguant, et c'était d'ailleurs l'un des points d'accroche un peu de ma conférence, c'est-à-dire finalement, comment des Tuchins qui sont globalement pas spécialisés ce sont pas des hommes d'armes professionnels, hein, ce sont pas des soldats, comment ces gens-là ont pu s'emparer aussi facilement. Il n'y a aucun mort, hein, d'ailleurs, qui est constaté au moment de l'assaut. Comment est-ce qu'ils ont pu s'emparer aussi facilement d'un château dont on pourrait s'imaginer qu'il est extrêmement bien défendu?
Bon, enfin, on connaît des choses qui ont été bien défendues à la Deuxième Guerre mondiale et qui n'y a pas eu de problème pour que les Allemands prennent possession. Mais c'est vrai, comment ils s'y sont pris? Mais d'abord, qui sont ces Tuchins? Quelle est cette révolte des Tuchins? Quels sont les enjeux derrière cette révolte?
Alors, cette révolte, en fait, c'est la révolte qui est sans doute la révolte la plus importante dans le Royaume de France pour toute l'époque médiévale. C'est une révolte qui a une dimension qui est une dimension régionale. C'est-à-dire qu'elle va englober l'ensemble du Languedoc. Hein. On trouve des Tuchins, par exemple, dans le Toulousain. On en trouve du côté de Nîmes. On en trouve pas mal dans le nord du Gard, hein, notamment à Bagnols-sur-Cèze et à Pont-Saint-Esprit. On en trouve aussi à Carcassonne. Donc, on en trouve à Narbonne. Donc, vous voyez que ça englobe quand même la quasi-totalité du Languedoc. Hein. Donc, c'est une révolte qui est très, très importante. Et c'est une révolte qui est assez longue dans le temps, ce qui est plutôt inhabituel pour une révolte médiévale, si on compare à la Jacquerie d'Île-de-France, hein, qui est beaucoup plus connue, évidemment. La Jacquerie d'Île-de-France, c'est de l'ordre de 3 semaines.
Pourquoi ce nom, Tuchin?
C'est pas du tout un nom occitan, d'ailleurs, curieusement. c'est un nom qui vient du nord de la France. On devrait dire d'ailleurs Tuchin, hein, plutôt que Tuchin, mais bon, l'historiographie a pris l'habitude d'utiliser ce terme de Tuchin. Les Tuchins, ce sont ceux qui prennent la touche. Hein, la touche, c'est-à-dire, en fait, le maquis, le taillis. En gros, Tuchin, au départ, ça veut dire quelque chose d'assez proche de maquisard. Mais maquisard au sens premier du terme, hein, des gens qui vont se réfugier dans le maquis, dans le taillis, et essentiellement au départ pour fuir en fait les ravages des compagnies d'hommes d'armes, des compagnies de routiers anglais, gascons, etc. pendant la guerre de Cent Ans.
Un peu Robin des Bois.
Alors, il n'y a pas forcément au départ une dimension qui serait une dimension sociale, hein, lorsque le terme apparaît. Lorsque le terme apparaît, ça désigne simplement des gens qui, devant l'arrivée d'hommes de guerre, quittent leur village et vont se réfugier dans la forêt.
Ils ont peur.
Ils vont mettre à l'abri leurs femmes, leurs enfants, leur bétail aussi, pas mal, éventuellement leurs provisions, etc.
Oui, c'est comme une invasion de sauterelles en Afrique quand ils arrivent sur un arbre. Quand ils repartent, il n'y a plus rien. Donc peut-être que ces armées, quand elles débarquaient, elles prenaient...
Oui, elles pillent, elles rançonnent, elles tuent, elles enlèvent le bétail, elles enlèvent les provisions, etc. Donc effectivement, les paysans ont tendance à se mettre à l'abri et à quitter leur maison dans ces cas-là.
Pour revenir après.
Pour revenir après, bien sûr, oui.
Et ça a pris ce nom Tuchin, donc
exactement.
Les gens qui sont sur la touche.
Voilà, et progressivement, on voit bien un glissement de sens, c'est-à-dire que ces paysans ne se contentent pas de fuir. Ils vont aussi s'opposer progressivement, les armes à la main, à ces hommes de guerre. Et donc, c'est ce qu'on voit dans la révolte des Tuchins en Languedoc, c'est-à-dire que ces paysans vont prendre progressivement, disons, à peu près entre 1360 et 1380, l'habitude de combattre ces routiers. Alors, ces routiers, ce sont des soldats qui sont un peu débandés, hein, c'est-à-dire ils ne sont pas formellement complètement au service du roi de France ou du roi d'Angleterre. Ils vivent un peu, voilà,
un peu
sur le pays.
Comme des mercenaires, non ?
Oui, c'est ça, ce sont des mercenaires. Hein, ils vivent un peu sur le pays. Et donc, les paysans vont prendre l'habitude de s'organiser pour les combattre.
Heureusement qu'ils ont fait ça, ils ont dû le faire parce que sinon ils se faisaient complètement bouffer sûrement.
Exactement. Et ce que l'on observe, c'est que d'une certaine manière, il y a rupture pour les paysans d'une forme de contrat social. C'est-à-dire que dans la monarchie médiévale au XIVe siècle, il est admis qu'on puisse payer l'impôt, mais que l'impôt doit servir à défendre la population. Or, à partir du moment où les gens sont obligés de se défendre eux-mêmes, et parfois d'ailleurs contre des hommes de guerre qui sont au service du roi de France. Hein,
ils disent à quoi ça sert que je paye l'impôt.
Exactement. Et donc, vous avez aussi ce problème fiscal qui entre en jeu. Et parmi les choses qui sont contestées au niveau de la fiscalité, il y a un impôt particulier qui est la gabelle du sel.
Oui.
Qui est un produit de première nécessité, hein,
oui.
À l'époque médiévale. On s'en rend moins compte, évidemment, aujourd'hui, parce qu'on sait conserver des aliments, autrement qu'en les salant. Mais à l'époque médiévale, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Et cette gabelle du sel, c'est un impôt qui est relativement récent, enfin, un impôt indirect, hein, une taxation, mis en place dans les années 1346-1347. Et Pont-Saint-Esprit est un lieu très important de perception de la gabelle du sel.
Parce que vous avez pont.
Oui, vous avez un gros grenier à sel, en fait.
Il est où ?
Alors, non, il n'existe plus aujourd'hui.
Mais il était où ?
Alors, il était dans le centre, en fait, dans le centre médiéval de Pont-Saint-Esprit.
Ah oui.
Et,
je savais qu'il y avait une glacière, ça, et elle y est encore.
Mais la glacière est d'époque moderne. Hein. On n'a pas de glacière à l'époque médiévale.
Et d'accord, au centre, ça m'intrigue, là vous m'intriguez.
Ben, en fait, le grenier à sel de Pont-Saint-Esprit est alimenté par la remontée par le Rhône des salins de Péquet. Les salins de Péquet, c'est les grands salins à côté d'Aigues-Mortes, hein,
oui.
C'est l'un des grands lieux de production du sel à l'époque médiévale. Et donc on fait remonter ce sel par le Rhône, jusqu'à Pont-Saint-Esprit.
Et à Pont-Saint-Esprit, on le stocke.
À Pont-Saint-Esprit, on le stocke et on le vend en percevant la gabelle.
Et on se fait du fric au passage.
Ben, c'est le but du jeu, je dirais.
Mais en restant sur l'histoire du sel, je sais que le pont du Gard, vous savez ?
Oui.
L'aqueduc, hein, qui mène l'eau de Uzès jusqu'à Nîmes, je sais qu'à un moment, il appartenait, il me semble, au roi de France et il a échangé pour avoir des marais salants. En tout cas, il y a eu une histoire d'échange entre le roi de France et le sel pour, concernant ce pont. Non, mais vous n'êtes pas au courant.
Alors, à propos du pont du Gard, non. Je sais en revanche que le roi de France, lorsqu'il fonde Aigues-Mortes, hein, en l'occurrence, c'est
oui.
Louis IX, hein, Louis IX va faire en sorte d'acquérir effectivement des salins qui sont les salins de Péquet, hein, qui sont les salins royaux, qui appartenaient à l'abbaye de Psalmody, donc qui est une ancienne abbaye pas très très loin de Nîmes et qui est ruinée aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il est possible que cette abbaye de Psalmody ait reçu en échange... l'abbaye a reçu des terres, hein, en échange, mais alors je ne me souviens plus du tout quelles terres exactement.
Donc, toujours est-il qu'il y a ce problème fiscal qui se pose avec ces gens qui finalement prennent la fuite devant ces armées et ces routiers qui détruisent tout au passage. Ils sauvent leur peau, quoi, en gros, hein.
Oui, et puis progressivement, je vous dis, ils vont quand même s'organiser et s'organiser pour mener en fait une sorte de guérilla qui est plutôt bien organisée. Hein, quand on regarde finalement les Tuchins en action, ce sont des bandes qui vont adopter une organisation militaire, qui ont des enseignes, qui ont de la musique. Hein. On les voit, par exemple, rentrer dans les villes avec des cornemuses, avec des tambours. Donc, ils ont des bannières, ils ont un capitaine. Ils adoptent, en fait, une organisation qui est une organisation militaire sous la forme de petites bandes, hein, de 20-25 hommes à peu près, avec un capitaine à leur tête. Ils sont plutôt bien armés, hein. On les voit armés avec des épées, ils ont un armement défensif, alors ce qu'on appelle la jaque, hein, qui est une sorte de cuirasse de cuir, hein. C'est pas non plus voilà.
On est au 14e siècle, hein.
Oui, non mais voilà, je veux dire, c'est pas par exemple de la cotte de maille ou c'est pas une armure de plate, hein, comme l'ont les chevaliers par exemple.
On va continuer d'en parler de cette révolte des Tuchins, puis on va en arriver au château des Guèzes, mais on se donne rendez-vous demain, Vincent Chalet.
Eh ben, avec plaisir.
À demain.
À demain.